Et ce matin, après la prédication, on va être encore conduit par l'équipe de louange dans quelques chants. Alors, pensez pas à votre dinde trop vite lorsque je termine. Restez avec nous pour adorer le ressuscité, d'accord? Juste pour vous mettre dans le contexte, c'est pas tout le monde qui est familier avec l'évangile de Jean, la fin de l'évangile, tout ça. On a parlé tout à l'heure de crucifixion, de résurrection. Bien, lorsqu'on arrive à la fin de l'évangile de Jean, effectivement, on arrive à ce moment où Jésus a été livré. Il a été livré par les Juifs aux Romains. Parce qu'ils l'ont rejeté, ils n'ont pas reconnu en lui le Messie, le Sauveur qu'ils attendaient depuis des siècles. Je parle de la majorité des Juifs, je parle pas de tous les Juifs. Donc, ils l'ont livré aux Romains. Et les Romains, un peu mal pris dans tout ça, parce qu'ils ne voyaient pas rien de fautif, ils ne trouvaient rien de fautif en lui, un peu mal pris avec tout ça, ont décidé quand même de faire un peu le jeu politique là-dedans et d'essayer d'accommoder cette demande de la part des Juifs de le mettre à mort. Et effectivement, ils l'ont crucifié comme on faisait à l'époque pour les pires criminels. Et donc, il est mort, crucifié. Lorsqu'on arrive au chapitre 20, on arrive... Après sa crucifixion, après qu'il ait été mis dans le tombeau, le troisième jour, ses disciples qui veulent honorer sa mémoire, qui sont complètement troublés, n'avaient pas vu venir cette mise à mort. Certains d'entre eux se rendent au tombeau pour pouvoir simplement lui rendre hommage, comme on peut aller se recueillir dans un cimetière sur l'endroit où un de nos proches a été enterré. Et il trouve le tombeau vide, et c'est ça qu'on va voir dans ce passage ce matin. Alors, je vais vous lire le chapitre 20, les versets 1 à 31, l'entièreté du chapitre, d'accord? Jean 20, 1 à 31. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alors, c'est pas un cercueil. C'est vraiment comme une petite caverne et il y a une pierre qui était roulée devant pour s'assurer que personne n'allait manquer de respect ou aller souiller justement un tombeau. Mais cette pierre-là est roulée. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. On parle ici de ce qui enveloppait le corps, ce avec quoi on enveloppait le corps, le linceul, les bandes, tout ça. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder le sépulcre, et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils craignaient que les Juifs s'en prennent maintenant aux disciples, à eux. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, les 12 apôtres, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est la parole de Dieu. On va se courber ensemble, si vous le voulez bien, dans un mot de prière. Père éternel, je veux te bénir. Je bénis ton nom, Seigneur. Je t'adore. Je te remercie pour cette fête de la Pâque, Seigneur, que des chrétiens célèbrent depuis 2000 ans. Parce que pour nous, Seigneur, Pâque, la Pâque juive a pris tout son sens. Nous avons vu, Seigneur, nous avons cru dans l'accomplissement des prophéties. Nous avons cru, Seigneur, que Jésus était l'accomplissement de tous ces sacrifices d'animaux qui annonçaient un jour où Dieu viendrait parmi les hommes s'offrir lui-même afin que la réconciliation entre toi et les hommes soit possible, Seigneur. Et je veux t'adorer ce matin. Je veux te remercier, Père, personnellement, moi, de m'avoir fait connaître ces choses, Seigneur. Moi qui n'ai pas vu le Seigneur, tu m'as accordé la grâce de croire. Et Seigneur, tu m'as fait entrer dans cette vie nouvelle et je te bénis pour ça, Seigneur. Et je te bénirai éternellement, Seigneur. Viens nous rencontrer ce matin par ton esprit. Rencontre celui qui ne croit pas, celui qui ne connaît pas, celui qui ne voit pas en Jésus ce Messie, ce Sauveur des hommes. Viens, Seigneur, rencontrer celui qui porte en lui-même cette vie et qui languit après une plénitude de ton esprit, Seigneur, une plénitude de vie au quotidien, afin qu'il soit à ton image, Seigneur, dans ses relations, dans ses journées, Seigneur. Viens nous rencontrer. C'est en Jésus que je te le demande, Père. Amen. Comme je le mentionnais au début de la célébration, Pâques, c'est une fête que des millions de chrétiens célèbrent un peu partout dans le monde ce matin. Aujourd'hui, c'est une fête qui célèbre la vie. Pour nous, les chrétiens, lorsqu'on pense à Pâques, la première chose qui nous vient à l'esprit, évidemment, c'est la mort de Christ. Mais Pâques représente la vie. Ça représente une vie nouvelle qui est offerte à tous les hommes. C'est non seulement la résurrection de Jésus-Christ, je vais revenir sur ça, mais c'est une vie nouvelle qui est offerte aux hommes. Lorsqu'on célèbre la Pâque, on célèbre un moment où Dieu vient rencontrer les hommes et offre à tous les hommes une vie nouvelle en eux, quelque chose de vrai, quelque chose de profond qui vient, qui nous bouleverse de l'intérieur et qui va rejaillir sur nos proches, sur notre manière de vivre, sur notre manière de voir le monde, sur notre manière de voir le quotidien. Voyez-vous, la fête de Pâques, c'est une fête chrétienne, mais c'est pas la célébration d'une religion qui nous donne un ensemble de règles, d'accord? Quand on pense à Pâques, on pense peut-être à une religion avec des règles de conduite. C'est pas ça, Pâques. On pense peut-être aussi à un programme de self-improvement. Il y en a qui vont trouver ça dans des livres, dans toutes sortes de choses, et on dit, bon, OK, si je comprends bien, le christianisme, c'est pas juste une loi, c'est pas juste des règles, c'est plus que ça, c'est une manière d'être mieux. Et si toi, c'est ton programme qui fait l'affaire pour toi, ben, man, t'as trouvé ton programme de self-improvement pour t'améliorer. C'est pas ça, la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est pas non plus un produit culturel. On vit des temps au Québec où les Québécois cherchent un peu à retrouver leurs racines, se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec les crucifix à la Chambre des communes? Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans les écoles, avec les prières, tout ça? Puis pour bien des Québécois, c'est plus un enjeu culturel, un enjeu historique, une histoire d'un peuple. On veut se construire comme peuple, on veut se donner une histoire, puis on se dit, mais on peut pas se construire une histoire en rejetant entièrement notre histoire. On n'est pas juste un peuple nouveau depuis les années 60, 70, on a aussi une histoire. Et donc, peut-être que Pâques, c'est un produit culturel, historique, qui nous aide à retrouver nos racines. C'est pas ça, Pâques. Ce n'est pas ça, Pâques. Pâques n'est pas non plus une expérience mystique que certains capotés dans notre société vivent, puis c'est leur manière de se brancher sur Maya la Terre et l'histoire de l'homme et d'être en connexion avec le grand esprit partout. C'est pas ça non plus, Pâques. D'une certaine manière, si je prenais le temps de défendre mon point de vue, je pourrais dire que c'est un petit peu tout ça, Pâques. D'accord? Mais ce n'est pas vraiment ça. Pâques, c'est une fête de la vie. C'est une fête de la vie que Dieu offre aux hommes. Une vie nouvelle qui nous est offerte. Une vie où Dieu vient vers nous et vient en nous. Pâques, c'est la célébration de la vie de Jésus-Christ grâce à sa mort. Pâques, c'est un moment où on fête cette vie-là qui est rendue possible grâce à la mort de Jésus-Christ. Tout à l'heure, Alexandre l'a bien exprimé, son sacrifice, mais aussi grâce à sa résurrection, qui rend possible une vie nouvelle en chacun de nous. Et je vais essayer de le résumer assez brièvement ce matin. Maintenant, j'aimerais ça juste attirer votre attention, vous ramener dans le passage, dans Jean 20, la fin du chapitre complètement. Voici ce que le narrateur reprend la parole ici, d'accord? Et puis il explique pourquoi il a écrit ce livre-là. Le narrateur ici, c'est Jean. Tout à l'heure, on va essayer de voir rapidement. C'est ce disciple que Jésus aimait. C'est ce disciple qui n'ose pas se nommer dans le passage, d'accord? Mais il nous dit pourquoi il a écrit le livre. Au verset 30 et 31, il dit, « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. » Et donc, il est en train de nous dire, « Écoutez les boys, j'ai été sélectif ici. J'aurais pu beurrer pas mal plus épais que ça, mais c'était pas le point que je voulais faire, d'accord? » Mais ces choses ont été écrites dans un but précis, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout l'évangile de Jean, lorsqu'on parle d'évangile de Jean, juste pour vous situer, c'est à l'intérieur de la Bible, moi je vous parle d'un des 66 livres de la Bible, d'accord? L'évangile de Jean, c'est un des 4 évangiles qu'on trouve dans la Bible. La Bible, c'est une collection de 66 livres différents. Un de ces livres-là, c'est l'Évangile selon Jean. C'est un des 12 apôtres qui était là, qui a été présent et qui raconte son histoire à lui par rapport à Jésus. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a ressenti, de quoi a-t-il été témoin? Il raconte son histoire. Vous pouvez le croire, vous pouvez pas le croire. Il l'a écrit afin qu'on puisse croire. Et donc, c'est le but de son livre. Le but de son livre, c'est que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Sauveur, le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce livre-là a été écrit pour toi ce matin si tu ne crois pas. On est dans une assemblée chrétienne, la majorité des gens ici croient. Ce livre-là n'a pas été écrit pour ceux qui croient premièrement. Je suis désolé pour la gang. Il a été écrit pour toi si tu ne crois pas. C'est pour toi qu'il a été écrit. Et si ce matin, Si ce matin je fais un seul point, je marque un seul point dans ton cheminement spirituel qui te conduirait à prendre le temps aujourd'hui, dans les prochains jours, à lire l'Évangile de Jean, c'est génial. C'est génial. Mets ce livre-là à l'épreuve, va le lire et va voir si ce personnage-là n'est pas aussi incroyable que Jean nous le dit ici. Et dans le fond, ce que Jean attend de nous à la lecture de ce livre-là, c'est que nous en venions à croire en Jésus. Croire en lui, pas simplement comme un grand sage, comme quelqu'un qui peut aider une société à s'ordonner avec des principes de sagesse qui nous conduisent, tout ça. Non, c'est beaucoup plus élevé que ça, je dirais, beaucoup plus extrême, beaucoup plus incroyable. C'est qu'il est le Christ, le Sauveur des hommes, et qu'il est le Fils de Dieu. C'est en venir à croire que ce Jésus-là est un être unique. C'est un être hors norme, c'est un être incroyable. Et qu'en croyant, nous recevions cette vie que Dieu veut nous donner. Jésus est un être unique de toutes sortes de manières, d'accord? Je vais rester dans l'Évangile de Jean, mais là on est à la fin, puis je veux juste le placer devant vous. Et ça nous fait du bien comme chrétiens de se rappeler à quel point Jésus est un être incroyable. Jésus est unique dans son origine. Si vous êtes familier avec l'Évangile de Jean, tournez avec moi dans Jean 1, s'il vous plaît. Revenez complètement au début de l'Évangile de Jean. Ce qu'on appelle le prologue, l'introduction de l'Évangile de Jean. Jean fait quelque chose de particulier. Il commence son histoire au début de l'origine de l'univers. Il commence son histoire, il nous dit, ça sera pas long, je vais vous parler de Jésus, mais si je veux vous parler de Jésus, je dois vous dire d'où il vient, ce gars-là, ce type-là. Et donc, il nous dit au départ que ce Jésus de Nazareth qui est mort sur une croix, avec qui des gens ont lunché, ils ont mangé avec lui, avant qu'il soit Jésus de Nazareth, existait déjà. Alors, si la résurrection était déjà incroyable pour vous, laissez-moi en rajouter un peu. Avant qu'il existe comme être humain, il existait déjà. Il existait déjà parce qu'il était là à l'origine de toute chose. Il était avec Dieu et il était Dieu. Dans Jean 1:1, on lit, je vais juste vous lire ça, c'est pas affiché. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Un peu plus loin dans le chapitre, au verset 14, on va apprendre que cette parole-là dont il est question, c'est le principe créateur. C'est Jésus lui-même, avant qu'il soit Jésus, d'accord? C'est le Fils de Dieu qui est là avec Dieu dès le départ. Mais là où je veux aller avec vous, c'est au verset 4. Au verset 4, toujours en nous parlant de cette parole, il dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Lorsqu'on essaie de comprendre quelle est cette vie que Dieu nous offre à travers l'œuvre de Christ, pour commencer à avoir une idée de ce dont on est en train de parler, je dois saisir que Jésus, lorsqu'il s'est incarné, lorsqu'il est devenu Jésus de Nazareth, apportait avec lui la vie. Jean nous dit ici qu'avant qu'il naisse comme un petit bébé, il existait de tout temps parce qu'il était avec Dieu, il était Dieu et il portait en lui la vie. Si le Fils de Dieu, si cet être-là avant de naître comme un enfant existait déjà, qu'il était avec le Créateur et qu'il était le Créateur, lorsqu'il vient et qu'il nous offre la vie, c'est une œuvre de création qu'il fait. Jean nous dit qu'au départ, quand toute chose, quand la vie dans l'univers, on passe d'un univers inerte à un univers vivant, où les choses commencent à vivre, à bouger, Christ est là et il est créateur lui-même. Et c'est ce créateur-là qui vient et qui veut te toucher personnellement, qui veut nous toucher personnellement. Pour venir créer en nous une vie nouvelle. C'est pour ça que lorsque je vous dis... La vie qu'il nous offre, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et une fois que c'est déposé en nous, ça va jaillir à l'extérieur. C'est un principe de transformation qui est là. Parce qu'il vient déposer en nous cette vie-là. Et lorsque je décide de placer ma foi en Jésus-Christ, je décide de placer ma foi en ce Créateur-là qui est venu marcher parmi les hommes et qui est venu s'offrir en sacrifice. Et il va venir faire de moi une créature nouvelle. Et ceux d'entre nous, depuis des milliers d'années, qui avons cette grâce, comme on dit dans notre jargon, d'être touchés, touchés par la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, touchés par ce message-là, qui voyons naître en nous cette foi-là en Jésus-Christ. Depuis des milliers d'années, des hommes et des femmes sur la terre expérimentent ce principe créateur qui commence à naître en nous, qui vient nous transformer de l'intérieur. Ça vient changer notre perspective de la vie et de la mort. Ça vient changer nos rapports avec les gens, nos relations avec les personnes. Il y a une vie abondante qui naît en nous. Un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean, toujours, dans Jean 10, on va l'afficher ici. C'est encore Jésus qui est en train de parler. Il est en train d'annoncer de manière un petit peu mystérieuse ce qu'il va faire en mourant sur cette croix, mais il veut se présenter comme le berger qui vient et qui se donne pour nous. Et il dit au verset 10 et 11, « Le voleur ne vient que pour dérober. » Jésus est en train de dire, « Je ne suis pas un autre de ces gourous-là, un autre de ces chefs religieux-là qui viennent pour abuser de vous. » Il dit, « Non, moi, je viens pour me donner. » Il dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est ça, Pâques. C'est Christ qui donne sa vie pour nous. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est qu'il dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Ailleurs, il va dire, « Celui qui croit en moi va être abreuvé d'une eau qui va jaillir de lui jusque dans l'éternité. » Lorsqu'une personne est touchée de cette grâce-là, de croire en Jésus-Christ et de reconnaître en lui celui qui s'est offert pour ses péchés. Lorsque quelqu'un est touché de cette grâce-là, cette vie-là, ce principe créateur-là vient et commence à agir en lui. En termes bibliques, c'est l'œuvre que l'Esprit-Saint vient faire en nous, d'accord? Et cette vie-là, c'est une vie abondante qui commence. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous pensez à Pâques, puis vous dites, ouais, c'est une autre affaire religieuse où les chrétiens fêtent leur petit rituel. Bon. Mais c'est ça, si ce que tu saisis de Pâques, ce sont des règles religieuses, tu n'as pas saisi cette vie-là qui vit en toi. C'est une vie qui est offerte. Si tu penses que c'est un produit culturel qui aide un peuple à se situer dans son histoire par rapport à d'autres peuples qui ont d'autres religions et tout ça, tu n'as pas saisi ça encore. Pâques, c'est ce créateur qui s'est fait homme, qui porte en lui la vie puisqu'il est le créateur. La vie émane de lui. Il vient vivre et il prend la forme d'un homme. C'est mystérieux ces affaires-là, je le sais. C'est mon expérience et c'est celle de millions de chrétiens sur la terre aussi. Qui vient vivre parmi les hommes et qui vient offrir sa propre vie, comme il vient de le dire ici, le bon berger qui offre sa vie en sacrifice, afin que cette mort qui est là en nous, cette mort spirituelle que tant d'êtres humains ressentent mais n'arrivent pas à expliquer. Il y a cette espèce de malédiction qu'on sent peser sur nous qui fait qu'on aspirait à être autre chose, mais on n'y arrive pas. C'est cette mort spirituelle-là qui est en nous. Et on a besoin, encore une fois, non seulement de naître physiquement, mais que le Créateur vienne toucher notre cœur et déposer cette vie nouvelle. Et cela est rendu possible par le sacrifice de Jésus-Christ et par sa résurrection. Parce qu'au moment où il ressuscite, le Père agrée son sacrifice. Il lui dit, « Fils, j'accepte ce que tu as fait pour le pardon de tous les péchés, tous ceux qui croiront en moi. Et voici, je te ressuscite le premier, comme un symbole de toutes les résurrections qui vont suivre. Maintenant, tout ça, ça se prend par la foi, d'accord? C'est pas évident à croire. C'est pas quelque chose qui est facile à croire. C'est ça qui complique les choses avec le christianisme, c'est qu'il y a le facteur foi qui entre en ligne de compte. Ce que Jean nous dit à la fin de son évangile, il nous dit, « Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, donc qu'il est le sauveur des hommes, et qu'il est le Fils de Dieu, afin que vous croyiez qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, et qu'il est ressuscité d'entre les morts. » Et on arrive là, et puis plusieurs se butent à ça, puis ils disent, « Oui, mais là, tu me demandes de croire dans quelque chose que je ne peux pas voir, qui est difficile à croire. » Peut-être que c'était bon à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, tu sais, les gens n'étaient pas très brillants. C'était des naïfs. Ils ne savaient pas c'était quoi un microscope, ils n'avaient pas Internet. Mais vous savez quoi, ça n'a jamais été facile à croire, cette affaire-là? Jésus leur dit, je suis le sauveur. Eux autres, ils disent, yeah, sure, poc, poc, on le crucifie sur une croix. Je ne ferais pas croire qu'ils ont cru. Mais regardez, même pour ses disciples, regardez dans le passage qu'on est en train de voir ce matin, les deux premiers versets du chapitre. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Jésus leur a dit, les boys, vous ne comprendrez pas, inquiétez-vous pas, je vais revenir. Je vais revenir, je dois mourir sur cette croix, mais je vais revenir. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre, chantant « Alléluia, Jésus ressuscité ». Non, elle dit « Ils ont volé le corps ». Vous comprenez, elle ne croit pas. Je veux dire, elle déduit la seule chose sensée pour un être humain. Il n'est pas là, il ne s'est pas levé, puis il s'est mis à marcher quand même. Chapitre 20, versets 11 à 14. Rapidement, qu'est-ce qui se passe? Marie de Magdala est là encore. Le sépulcre est ouvert. Qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle voit deux anges? Tu vois deux anges, tu sais. Allume. Quelque chose qui se passe. Elle dit, je pleure parce qu'ils ont volé son corps. Thomas, un petit peu plus loin. Jean 20, un tout petit peu plus loin, verset 25. Thomas dit aux disciples, les disciples disent, écoute, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, c'est vrai. Il dit, non, moi si je ne touche pas, pas si je ne vois pas, pas si je ne l'entends pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Ce n'était pas plus facile à l'époque de croire en Jésus-Christ, d'accord? Si vous êtes avec nous depuis qu'on est dans le livre des Actes, vous cheminez avec nous, puis vous voyez Paul arriver dans une ville, puis Paul arrive dans une ville, commence à annoncer l'Évangile, il y a des miracles encore qui se font, c'est complètement capoté ce qui se passe, mais vous avez la majorité de la population à tout coup qui disent « Non, non, ça se peut pas, moi je crois pas en ça. » C'était pas plus facile pour eux à l'époque de croire. En fait, les Écritures vont tellement loin que les Écritures disent que même si Christ était là et faisait des miracles devant nous, ce serait encore difficile pour nous de croire. Et ça, c'est peut-être difficile à croire pour vous. Parce que vous dites, non, 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 non. Moi, je croirais si je voyais. Yannick, c'est juste ça le problème, c'est que je ne vois pas. Ce que les Écritures nous disent, c'est que les gens n'ont pas de la difficulté à croire par manque d'information. Les gens ont de la difficulté à croire parce que le cœur est rebelle. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette mort spirituelle qui est en chacun d'entre nous. Et c'est ça qui rend tellement difficile pour nous de croire. Les Écritures nous disent que les démons et le diable croient en Dieu. Les autres n'ont pas de doute, mais ils sont rebelles. Et cette même rébellion coule dans nos veines à nous aussi. Mais encore une fois, je vous le dis, ce livre-là a été écrit dans un but. C'est pour nous aider à croire. Ce livre-là a été écrit par un témoin qui a dit, « Attendez que je vous raconte, vous allez voir, vous allez pouvoir cheminer avec moi, puis vous allez pouvoir croire. » Il a été écrit pour ça, ce livre-là. Alors, si c'est difficile pour toi à croire, lis l'Évangile de Jean. Va rencontrer ce personnage-là unique et incroyable. Et vois un peu si tu ne commences pas à croire. Ce livre-là a été écrit par un type qui a cru avant de voir. Si vous avez été attentif dans Jean 20, Jean a cru, je vous ai dit, c'est lui le disciple que Jésus aimait, qui nomme pas, là, qui ne se nomme pas en fin de compte. Si vous avez été attentif, Jean a cru avant de voir Jésus. Lorsque Marie de Magdala s'en vient, puis elle dit, ils ont volé le corps, Pierre puis Jean, qui étaient comme les deux best friends tout le temps, courent les deux ensemble, puis Jean arrive, puis on trouve toute leur personnalité encore, Jean reste à l'extérieur, mais Pierre, qui est toujours le premier à se garrocher à l'eau, rentre dans le sépulcre, puis il s'en va voir ça, puis il voit les bandelettes, tout ça. Et puis là, Jean ose entrer à ce moment-là, et il voit que le tombeau est vide. Maintenant, peut-être vous n'êtes pas familier avec l'histoire, tout ça, mais ces gens-là ont vu Jésus, il n'y a pas si longtemps, ressusciter quelqu'un des morts, Lazare. Et si vous êtes familier avec l'histoire, vous vous rappellerez, lorsque Lazare sort, bien, il ne sort pas en tox. D'accord? Ça ressemblait plus à quelque chose comme... Parce qu'il était tout embobiné, avec tout le kit, il y avait tout ça là. Mais quand Jean arrive dans le tombeau, qu'est-ce qu'il trouve? Tout ça qui est bien rangé là, C'est pas vraiment le comportement des voleurs de sépulcres, vous comprenez? Tout est bien placé, tout est clean, parce que Jésus avait plus besoin de ça, il est sorti avec son corps nouveau, glorifié. C'est bizarre. Ceux qui aimaient les X-Men puis tout ça, téléportation, ça s'en vient les boys. Je veux dire, regardez ça, lisez ça comme il faut. Moi, j'ai juste hâte de l'autre côté. Je veux juste comme essayer cette affaire-là, rentrer dans des pièces. Jean n'a pas vu avant de croire. Ce que Jean a vu, c'est l'invisible. Il est arrivé, le corps n'était pas là et il a cru à ce moment-là. Il ne comprenait pas tout, mais il a cru à ce moment-là. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé ici. Christ est ressuscité. Il ne comprenait pas tout encore. Et un petit peu plus loin, dans le même passage, Jésus va dire à Thomas, il va dire, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. » Et je ne pense pas que c'est des réprimandes qu'il fait ici. Je pense que c'est la grâce de Christ, encore une fois. Il est tellement gracieux, tellement patient. Mais il dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Moi, je veux vous encourager à lire l'Évangile de Jean. Aller à la rencontre de ce personnage incroyable qui est Jésus de Nazareth. Et après la lecture, venez me voir, venez me dire « Non. » Ou peut-être. Ouais, peut-être que oui. Je veux continuer à le rencontrer, à le connaître, à le découvrir, ce personnage-là. Parce que le jour où Dieu vous touche, et voyez-vous, j'insiste là-dessus depuis le début parce que les Écritures sont très claires, ce n'est pas un processus qu'on vit seul, ce cheminement-là vers la foi chrétienne. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit seul. Pour moi, quand j'annonce l'Évangile à quelqu'un, je suis toujours dans une espèce de transaction à trois où je dis, je parle à la personne qui est devant moi, puis je parle à mon Dieu, puis je dis, Seigneur, touche-la, parce que je sais que si tu n'interviens pas, il n'y aura pas de foi. Mais le jour où Dieu va vous toucher de cette grâce, les yeux de votre cœur vont s'ouvrir et vous allez dire, oui, c'est lui le sauveur dont j'ai besoin. Qui vient me sauver de moi-même, qui vient me sauver du péché, de cette mort spirituelle qui est là en moi, qui a un impact sur toutes mes relations, qui a un impact sur ma vie, et qui vient me sauver jusque dans l'éternité. Parce que cette vie qui est annoncée là, ici, c'est la vie éternelle. Et donc, ce que Christ est venu nous annoncer, c'est qu'il venait déposer une vie en nous, qui va commencer à grandir en nous, qui va rejaillir autour de nous et qui va s'étendre jusque dans l'éternité. Parce que vous savez quoi? Moi, je crois que la majorité des êtres humains sur la Terre, c'est ce que toutes les études statistiques nous disent, la majorité des hommes sur la Terre ont ce sentiment intérieur qu'à quelque part, on n'a pas été fait pour mourir. On a été fait pour vivre éternellement. Il y a quelque chose de plus que ce corps qui vieillit. Et tout cela trouve son sens lorsque tu saisis que Christ t'annonce la vie éternelle. Je t'invite ce matin à prendre Pâques au sérieux afin que tu puisses entrer dans cette joie-là. Si c'est là que tu es rendu, comme je parlais avec quelqu'un dernièrement, tu peux en parler avec d'autres chrétiens, tu peux en parler avec des gens ici, tu peux te recueillir chez toi et simplement aller dans la prière et dire « Dieu, si t'es là, j'ai besoin que tu te révèles à moi. Je vais lire l'Évangile de Jean et je veux rencontrer cette personne-là. » Et dans un an d'ici, lorsqu'on va se revoir, j'espère d'ici là, mais pour Pâques, il va y avoir une vie nouvelle qui va avoir commencé en toi. Maintenant, je m'adresse aux chrétiens. Ce que Jésus nous dit ici, au verset 21, Jésus dit à ses disciples, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ça, c'est notre mandat à nous. Notre mandat à nous, c'est de partager cette vie nouvelle qui est en nous et d'annoncer ce message-là. Et pour moi, il y a deux volets à ça. C'est ça que je vois constamment dans Jean. Si je veux rendre témoignage de cet invisible-là, je vais devoir le rendre visible, d'accord? On n'a pas l'opportunité, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu l'a voulu, de booker des rendez-vous à nos amis avec Jésus. Ouais, il s'en vient en ville, il va être là dans 3 semaines, ça fait 4 ans que je t'en parle, je te book un rendez-vous avec lui. il demeure invisible. Mais cet invisible-là devient visible par la vie qu'il y a en nous. Et vraiment, il y a deux volets à ça. Il y a deux volets à ça. Le premier, rappelons-nous que c'est en Jésus qu'est la vie. Rappelons-nous que le cœur du christianisme, c'est de demeurer en lui. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean encore, l'image qu'il prend, il dit, je suis le cep, c'est une vigne et moi je suis le cep, je suis la base. Vous, vous êtes les branches qui partez de là. C'est impossible pour vous de porter du fruit en abondance, si vous ne demeurez pas en moi. Et c'est assez clair ce qu'il est en train de dire lorsqu'il parle de demeurer en lui. Il parle de garder sa parole, de rester près de lui, de rester à l'écoute de ce qu'il veut faire en nous pour devenir vraiment comme lui. Alors les chrétiens, chaque fois qu'on lit les Écritures, qu'on lit les Évangiles, puis que notre réflexe est de dire « Wow! » C'est peut-être bon pour Jésus, cette vie complètement débile-là, extrémiste, de don de soi, d'aimer ses ennemis, d'être extrême comme ça. Non, c'est l'Esprit qui est en train de dire, voici la vie que je veux produire en toi. C'est ça que je veux produire en toi. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu as reçu son Esprit, cette vie-là est en toi. Et ce que Christ nous demande de faire, c'est d'arrêter de la retenir. De rester près de lui, près de sa parole, de commencer mes journées en disant, Seigneur, j'ai besoin de rester connecté à toi afin que cette vie-là soit là et que ma vie soit abondante, abondante de fruits. Parce qu'en effet, lorsqu'un chrétien commence à rester près de Christ, à marcher dans la plénitude de l'Esprit, à laisser toute cette vie-là complètement flyer, naître en lui, il se passe des choses, ma manière d'agir avec les autres, mon rapport au bien matériel, mon rapport au temps, mon rapport aux gens, la manière que je réagis à ce que les gens me font est complètement bouleversée. Il y a une vie nouvelle qui est là, qui me conduit dans l'humilité, dans la générosité, dans la bonté, qui me conduit à un certain détachement en même temps que j'aime profondément Dieu et tous les gens que Dieu place sur mon chemin. Et à ce moment-là, les gens autour de moi peuvent commencer à être témoins de l'invisible. Et si je m'en tiens seulement au message, mais que cette vie abondante-là n'est pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'annonce aux gens que je suis dans une religion, dans un système religieux avec tout simplement un porteur de ballon qui s'appelle Jésus-Christ. Frères et sœurs, on a besoin de rester connecté au cep et laisser sa vie jaillir en nous. Ça va nous mener loin. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vont changer dans nos vies. Notre rapport aux gens, notre rapport au temps, notre rapport à l'argent va changer. Mais les gens autour de nous vont commencer à être témoins de l'invisible. Et bien sûr, ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Annoncez l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sans qu'ils reçoivent ce message-là, ils ne pourront pas recevoir cette vie-là. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin. Alors ouvrez la bouche et parlez de lui. Parlez de ce moment où vous avez été témoin dans votre propre vie que cela est vrai, qu'il a vraiment existé, même s'il est invisible. Il est mort sur cette croix et il est ressuscité. Vous l'avez compris et vous l'avez expérimenté. Amen. C'est ça qu'on fête à Pâques. C'est ça qu'on fête à part. On va prier ensemble avant de continuer à l'adorer. Seigneur Jésus, tu as produit cette vie en moi, Seigneur, en donnant ta vie. Il a fallu que tu meures et que tu ressuscites pour que je vive, Seigneur. Quelle grâce. Et Seigneur, c'est ma foi, c'est ce que je crois, c'est ce que j'expérimente de plus en plus depuis 20 ans, Seigneur. Et encore aujourd'hui, je suis excité de voir où tu vas me conduire avec ça, Seigneur, et je suis impatient d'aller à ta rencontre pour te voir face à face, Seigneur, te dire les yeux dans les yeux, merci et combien je t'aime. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen.